les plans. Oui. C'est bon, ok. Je lis l'exposé, ok. C'est sur l'apologétique de l'amour aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai étudié un peu, j'ai écrit en fait un petit livre sur le sujet. Donc j'espère que je comprends un peu quelque chose sur le sujet, mais on verra. Quand je demande aux gens de m'expliquer le sens du mot « amour », on me donne beaucoup de définitions différentes. L'amour est une réponse émotionnelle envers quelqu'un ou quelque chose. L'amour est un engagement entre deux personnes. L'amour est un sentiment chaleureux. L'amour se trouve dans la sexualité. L'amour, c'est ce qui donne un sens à la vie. L'amour n'est qu'une réaction chimique dans le cerveau. L'amour, c'est l'amitié. Et finalement, l'amour se voit quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Quand je réfléchis à ces définitions, ma réaction est d'être d'accord plus ou moins. Il y a beaucoup de choses à dire concernant l'amour. Tout le monde a un avis. Mais si je demande aux gens de m'expliquer comment ça se fait que l'amour existe, ils hésitent et sont rarement capables de donner une vraie réponse. Aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez que l'amour existe, que l'amour est infiniment et éternellement important, et que l'amour a une vraie source, une source réelle et objective. Mon but dans cet exposé, c'est donc de vous proposer une explication concernant l'existence de l'amour dans le monde. Mais avant de se mettre en quête de la source de l'amour, je voudrais d'abord trouver une bonne définition de l'amour. Si on se tourne vers les philosophes et les intellectuels, on trouve des idées très intéressantes en ce qui concerne ce sujet difficile. Alphonse Daudet dit que l'amour idéal est un mensonge des poètes. Un autre philosophe a dit « L'amour est un plaisir qui nous tourmente, mais ce tourment fait plaisir. » Et j'ai lu récemment un proverbe français qui dit « L'amour est le désir d'achever le bonheur d'autrui au moyen de notre propre bonheur. » Ok. Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, prétend qu'il y a dans le mot « amour » quelque chose d'ambigu et de suggestif, quelque chose qui excite nos souvenirs et nos espoirs, si bien que même l'esprit le plus bas et le cœur le plus froid peuvent y percevoir quelques restes de la lueur de ce mot. Pour Soren Kierkegaard, l'amour se manifeste dans le refus de l'égoïsme. Le philosophe anglais Thomas Hobbes a dit qu'on pouvait voir l'amour dans la charité et dans la bienveillance. D'autres ont ajouté la douceur et l'altruisme à la définition. Sur la base de la Bible, une des meilleures définitions de l'amour vient d'un homme qui s'appelle C.S. Lewis, le créateur du monde de Narnia, peut-être vous connaissez. Dans un livre qui s'appelle « Les quatre amours », Lewis a distingué entre les différents types d'amour dans le monde antique. Les Grecs anciens avaient quatre mots différents pour l'amour. Eros, c'est l'amour sexuel. Stergo, c'est l'amour instinctif et basique. Philéo, c'est l'engagement de l'amitié et de la bienveillance. Et agapé, c'est l'amour divin et pur. Chacun de ces amours a son propre contexte. Mais on peut faire une distinction parmi ces différents types d'amour entre ce que C.S. Lewis appelle l'amour qui prend et l'amour qui donne. L'amour qui prend et l'amour qui donne. L'amour qui prend, c'est l'amour qui recherche le plaisir et qui contribue au bonheur d'un individu. Ce genre d'amour est naturel et provient de qui nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est normal. Mais par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'amour qui donne. Cet amour, c'est celui qui se caractérise par la bienveillance, la miséricorde, l'altruisme, l'émotion, l'engagement, en fait. C'est un amour qui se préoccupe des besoins d'autrui. C'est un amour qui place l'autre avant soi. C'est un amour qui vient d'en dehors de nous-mêmes. C'est un amour qui donne et qui ne réclame pas égoïstement. C'est un amour qui recherche le bien même au détriment de soi. Voilà quelle sera notre définition de l'amour. C'est un amour pur et vrai et bon et idéal. Tous les autres genres d'amour découlent de ce noyau commun. Je ne suis pas convaincu que cet amour soit un mensonge, comme dit Daudet. Peut-être que ce n'est pas toujours évident. Peut-être que les bons exemples d'amour sont souvent cachés par la haine et le mal dans le monde. Mais malgré tout ça, nous faisons l'expérience de l'amour vrai et pur dans notre vie. Bref, maintenant je vous pose la question, quelle est la source ou l'origine de l'amour? Est-ce qu'il y a une philosophie, une religion ou un système de croyance qui explique et qui valorise l'amour? Notre tentation est de dire que oui, toutes les philosophies, les religions, les systèmes de croyance offrent une explication de l'amour. Donc, quel est le problème? Chacun a sa propre théorie, sa propre philosophie de la vie, ses propres raisons pour son éthique. Quel est le problème? Le problème se trouve dans le fait que chaque système de croyance présente des idées qui sont incompatibles avec les autres systèmes. Chaque philosophie essaie d'expliquer l'existence de l'amour, mais en le faisant, elle peut se montrer soit cohérente, soit incohérente. Je vous donne un exemple. Imaginez dans un arbre un petit nid, fabriqué soigneusement avec une grande précision et une grande complexité. Vous regardez ce nid et vous vous dites, je me demande qui a fabriqué ce nid merveilleux. Tout à coup, vous entendez une voix derrière vous qui vous dit, c'est moi qui ai fabriqué le nid. Vous vous retournez et voilà, c'est un chien. C'est bizarre d'abord parce qu'un chien parle. C'est bizarre, mais ensuite, c'est bizarre parce que normalement, un chien ne peut pas grimper dans un arbre. De plus, avec sa grande bouche, ou quel est le mot en français pour gueule, c'est ça. Et ses pattes énormes, il y a peu de chances qu'il puisse façonner un petit nid compliqué. Mais soudainement, vous entendez une autre voix, celle d'un petit oiseau qui vous dit, non, c'est moi qui a fabriqué le nid. Voilà, qui est beaucoup plus logique, n'est-ce pas? Alors, je sais que toute analogie a ses limites, mais dans un certain sens, on peut parler des religions et des philosophies de la même manière. Il y a certaines philosophies qui n'expliquent pas certaines choses. Il y en a d'autres qui donnent des explications plus ou moins logiques. Nous allons donc examiner quelques systèmes de croyances en se posant la question à chaque fois. Ce système explique-t-il l'amour? Ou bien, est-ce que ça explique d'où vient l'amour et pourquoi l'amour existe? Je vous propose que nous commencions par le matérialisme philosophique. Et qu'est-ce que c'est que le matérialisme philosophique? C'est simplement la croyance selon laquelle la matière, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers. Tout qui existe et se mesurer par la science. Le monde des esprits, des âmes et des dieux est une illusion. Le cerveau et l'esprit, c'est la même chose. Ou encore, l'esprit est une simple fonction du cerveau. L'homme n'a pas plus de valeur qu'un animal. Il y a plus de responsabilité, oui, mais jamais plus de valeur. Il est une machine constitué d'atomes et programmé par sa ADN, ses gènes. On peut dire qu'il est un genre de steak ambulant. Un steak complexe, mais un steak quand même. Pour le matérialiste, tout ce qui existe dans l'univers est physique. Il n'y a pas de vie après la mort, par exemple. L'homme ressemble à un ordinateur construit, utilisé et recyclé. Cette philosophie, c'est celle de beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde occidental. C'est la philosophie qui est présupposée dans les écoles et dans les universités aux États-Unis, ici en Europe, même dans certains pays asiatiques. Mais la question demeure, cette philosophie explique-t-elle l'existence de l'amour, la source de l'amour? Si on regarde le matérialisme, il y a deux possibilités évidentes. La première suggère que l'amour est réel, mais pas explicable. Je m'explique. Pour le matérialiste, nos comportements émotionnels et moraux sont le résultat de notre environnement et de notre programmation génétique. La bienveillance est un mécanisme de survie. On donne pour que l'autre nous laisse. On aime pour que l'autre nous donne. Pourquoi? Parce que notre instinct est un instinct de survie. Il y a 30 ans, le biologiste britannique Richard Dawkins a écrit un livre très important, s'appelle The Selfish Gene ou Le gène égoïste. Dans ce livre, Dawkins prétend que le seul but de gène est de se multiplier. L'être humain est un véhicule pour le gène, c'est tout. L'être humain est programmé et contrôlé par ses gènes. Il existe seulement pour trouver un bon partenaire sexuel afin de faire perdurer ses gènes dans la génération suivante. Dans ce processus, l'amour n'existe pas vraiment. S'il y a de la douceur, par exemple, ou de la bienveillance, de l'amitié, de la charité dans cette relation, c'est parce que le gène produit ses effets dans le but de conquérir le partenaire, c'est tout. Mais l'altruisme ne joue jamais un rôle dans de telles relations. Selon Dawkins, l'amour ne donne jamais. L'amour prend, c'est tout. Naturellement, il ne peut rien faire d'autre. Les idées de Dawkins ont été reprisées par d'autres biologistes matérialistes, mais cette théorie entraîne deux problèmes. D'abord, l'être humain est contrôlé complètement par ses gènes, ce qui veut dire qu'il n'existe pas de décision moralement bonne ou moralement mauvaise. L'amour n'est pas plus avantageux que la haine. Nous vivons dans un univers moralement neutre. Nos gènes pourraient employer soit ce qu'on appelle le bien, soit ce qu'on appelle le mal. Mais les deux servent le même but. Nous ne sommes pas libres de choisir moralement, parce qu'il n'y a pas de distinction morale. À la place, il y a un instinct de survie. Donc on a un univers neutre. Ensuite, le matérialiste croit à un univers où l'amour altruiste n'existe pas. Pour lui, l'amour se sert et c'est tout. Pour lui, un amour vrai et pur qui donne aux autres et qui cherche l'avantage des autres est impossible. Ce qui est important, c'est la reproduction de gènes et jamais le bien-être d'autrui. Mais malgré le fait que l'amour altruiste est impossible, le matérialiste suggère qu'on doit quand même aimer son prochain. C'est-à-dire, on doit faire quelque chose qui est génétiquement impossible. Imaginez un parent qui dit à son enfant, ce serait avantageux si tu te laissais pousser des ailes pour voler. Oui, c'est peut-être une bonne idée, mais aussi c'est génétiquement impossible. Et ça, c'est le problème avec le moral, avec l'amour pour les athées, pour les matérialistes. C'est génétiquement impossible. De la même façon, le philosophe français André Comte-Sponville prétend que c'est l'amour qui fait vivre. C'est bon, n'est-ce pas? Pour lui, même en tant qu'athée, l'amour a une valeur importante. Mais le problème pour Comte-Sponville, c'est que l'amour qu'il chérit, il a emprunté au christianisme. Dans son livre « L'esprit de l'athéisme », il nous propose un univers sans Dieu qui est moralement neutre. Mais il ne peut pas s'empêcher de conserver une spiritualité et un amour réel et objectif. L'amour existe et l'amour est important, mais on ne peut pas expliquer pourquoi l'amour existe. ni pourquoi l'amour est important. Mais ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Alors, j'ai mentionné qu'il y avait deux possibilités d'expliquer l'amour dans un univers matérialiste. La première réponse que nous avons vue, c'est que l'amour existe. C'est incohérent avec le matérialisme et on ne peut pas expliquer l'amour, mais on doit le pratiquer de toute façon. La deuxième possibilité, c'est que l'amour n'est pas désirable. Et selon l'avis de certains matérialistes, cette deuxième réponse est beaucoup plus logique. La logique de cette réponse vient de Nietzsche. On a déjà discuté lui un peu, mais Nietzsche disait, comme c'est aussi assez connu, que Dieu était mort. Et il s'est rendu compte que si Dieu était mort, l'athée devait rejeter la morale chrétienne qui imposait des limites à l'humanité et qui entraînait la faiblesse. Il s'est rendu compte que la morale chrétienne aboutissait à l'esclavage. Si nous sommes le simple produit de la nature, l'amour ne présente pas d'avantage du point de vue de l'évolution. L'amour est une faiblesse qui mène à la servitude et pas à la survie de plus aptes. Et il a raison, je pense. Dans la nature, ce n'est pas le plus gentil qui survit, c'est le plus fort qui survit. L'avantage revient à celui qui fait ce qui est nécessaire pour survivre. S'il aime, c'est seulement de façon manipulatoire, dans un but précis. Mais ça, c'est pas le véritable amour. Nietzsche a compris que si on est athée, il n'y a pas de raison de conserver les valeurs de notre passé religieux. En tant qu'athée, il nous montre que la réponse la plus logique consiste à rejeter l'amour et à vivre une vie débarrassée de toutes les perturbations qu'entraînent l'amour. Je pense qu'il a raison. Mais pour ceux qui croient toujours à l'amour et qui admirent sa beauté et sa chaleur, il y a d'autres réponses. Nous passons donc au non-dualisme panthéiste et oriental. Et comme d'habitude, on va avoir le temps pour les questions après. Encore, je pose la question, quelle est la source de l'amour? Pourquoi aimer? Nos yeux sont bandés et on nous demande d'identifier un rôti de veau parmi beaucoup d'autres plats. Nous avons tous les autres sens. Nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, nous pouvons goûter, mais nous ne pouvons pas voir. Alors, quel plat est le rôti de veau? Reconnaître la bonne philosophie, c'est comme reconnaître le bon plat en ayant les yeux bandés. Nous devons tester et goûter chaque plat pour trouver la bonne réponse. Le non-dualisme, ou le panthéisme, si vous voulez, est une philosophie qui prétend que Dieu et l'univers sont identiques. Ok, ça c'est très important. Pour le panthéiste, il n'y a pas de distinction entre les individus. Tout ce qui existe possède le même esprit. Il y a donc une chose, une réalité spirituelle. Rappelez-vous que pour le matérialiste, il n'existe que la matière. Le domaine spirituel est une illusion. Mais pour le panthéiste, il n'existe que le spirituel. Le domaine de la matière est une illusion. Alors, pour être juste, il ne faut pas mettre tous les différents genres de panthéisme dans le même panier. Comme quand on emploie le mot théisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le christianisme, l'islam, le judaïsme. De la même manière, le terme de panthéisme inclut l'hindouisme, le bouddhisme, certaines autres religions orientales et même le nouveau paganisme qu'on trouve aujourd'hui en Occident. Mais au fond, toutes ces religions partagent la même croyance à un monde non-dualiste, un monde où tout est divin. Ça, c'est le panthéisme. Chez l'hindou, on trouve cette idée de non-dualisme dans la distinction entre Atman et Brahman. Ça, c'est très important chez les hindous. Atman, c'est vous. Atman, c'est l'individu. Au contraire, Brahman, c'est le divin. Mais n'oubliez pas que l'hindouisme est non-dualiste, panthéiste. Donc, il n'y a pas de vraie distinction entre Atman et Brahman. Pour l'hindou, Atman, l'individu, doit comprendre qu'il est en fait Brahman. Pour l'hindou, Atman est Brahman. J'espère que ça c'est clair, c'est un peu bizarre pour nous, mais tout ce qui existe est identique et tout est divin. Ça c'est l'idée. Chez le bouddhiste, on trouve une croyance similaire. Et ce fondement, c'est le non-dualisme, le panthéisme. Certains bouddhistes décrivent la réalité ultime ou l'existence ultime comme un plein d'eau. Tout est lié. Il n'y a pas de vrais individus. L'être humain n'est qu'une goutte d'eau parmi l'autre ou d'autres dans un grand torrent. Ça, c'est l'idée. C'est seulement par les pratiques bouddhistes, comme la méditation par exemple, qu'on peut rejoindre le plein d'eau et être absorbé dans le vide qui est la réalité. Pour le bouddhiste, l'individu est un mythe. Et le but pour vous est de comprendre que vous n'existez pas. Ça, c'est l'idée. C'est le panthéisme. Bref, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne l'amour? Ça, c'est la grande question aujourd'hui. Quelle est la source de l'amour? Est-ce qu'il y a une religion, une philosophie qui peut expliquer l'amour dans le monde? Alors, rappelez-vous qu'au centre de non-dualisme et de panthéisme, il y a un rejet de dualisme ou des dichotomies. Tout est uni. Cette unité s'applique à la morale aussi. En fait, je cite un des maîtres de Zen bouddhisme qui a dit que le bien et le mal sont des illusions. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Un autre maître de bouddhisme dit que si on admet qu'il y a une différence entre le bien et le mal, on est donc lié au mal. C'est un peu bizarre, mais ça c'est la croyance bouddhiste. Mais cette philosophie pose un grand problème pour le panthéiste. Parce que si l'amour et la haine ne sont pas distincts, il ne nous reste plus de raison d'agir par amour. Tous nos actes sont neutres dans un univers moralement neutre. L'amour, c'est la haine. C'est l'amour, c'est la haine. Pour le non-dualiste, il n'y a pas de vraie source pour l'amour, ni pour la morale en général. Dieu, l'homme, l'univers, l'amour, la haine, vous, moi, il n'y a pas de distinction. C'est tout pareil. Alors, le non-dualisme, ou le panthéisme, explique mal pourquoi l'amour existe, pourquoi on a besoin d'amour, et d'où vient l'amour. Comme je l'ai dit, reconnaître une bonne explication philosophique, c'est comme reconnaître le bon plat parmi plusieurs autres qui sont faux. Nous avons goûté au non-dualisme, le bouddhisme et de l'hindouisme, mais ce n'est pas vraiment satisfaisant. Si nous recherchons quelque chose de cohérent, il faut donc continuer à chercher. Je vous propose donc le polythéisme. Le polythéisme. Quand on parle de polythéisme, c'est naturel pour nous, dans le monde occidental, d'imaginer les dieux grecs. Nous pensons aux cultures anciennes comme celles des Égyptiens, des Babyloniens, des Cananiens et des Romains. Mais il y a quelques religions aujourd'hui qui croient encore en une multitude de dieux. Je voudrais en mentionner deux aujourd'hui. On va réexaminer l'hindouisme et on va réfléchir au mormonisme, ou la religion des mormons. Il faut reconnaître que l'hindouisme est une religion très diverse, je répète ce point. J'ai déjà mentionné la tradition Advaita Vedanta, c'est pas très important le nom, mais ça c'est la tradition non-dualiste ou panthéiste. Mais chez l'hindou, il y a plusieurs possibilités d'atteindre le salut. Une autre possibilité, c'est par la tradition bhakti. Au lieu de méditer sur l'unité Atman-Brahman, la tradition bhakti propose de vénérer des dieux. Ça, c'est l'idée. En fait, il y a plus que 300 millions de dieux chez les hindous. C'est beaucoup. Pour l'hindou, dans cette tradition, l'amour est possible. L'adoration d'un dieu présuppose l'amour pour ce dieu. Pour échapper au monde physique, on doit s'engager vis-à-vis d'un dieu et aimer ce dieu jusqu'à disparaître en lui. Ça, c'est l'idée dans l'hindouisme. Mais un des problèmes que soulève ce type de polythéisme se trouve dans le fait qu'on peut lui adresser la même critique qu'au non-dualisme ou panthéisme. Dans ce système, Brahman est toujours la réalité ultime. Même si on crée des distinctions entre les dieux individuels et les hommes individuels, tout existe dans une unité non-dualiste. Même pour l'hindou polythéiste, l'univers est une unité panthéiste. L'amour et la haine sont un. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une vraie distinction. De plus, et c'est peut-être plus important, le polythéiste est obligé de donner à l'amour une définition très faible. L'amour pourrait être défini selon l'identité de chaque dieu, par exemple. Si j'adore la déesse Kali, une déesse hindoue, mon amour pour elle demande que je fasse des sacrifices humains. Je ne parle pas de Indiana Jones, je sais qu'il existe cette idée-là, mais vraiment dans la tradition hindoue, des choses comme ça se passent. C'est une réalité. Mais si j'adore Satan, par exemple, mon amour pour lui demande un hédonisme complet. Je peux louer Baal ou un autre dieu et définir l'amour dans une autre manière. Ça, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour, alors? L'amour est bon, est doux, est altruiste, est aussi méchant, est hédoniste, est miséricordieux, est malhonnête, est patient, est horrible, est malicieux, tout cela en même temps. Ça, c'est le problème. L'amour perd son sens s'il est défini par une pluralité de Dieu. Alors, pour éviter ce problème, le mormonisme propose un type de polythéisme qui s'appelle le manarchothéisme. Le manarchothéisme, ou le polythéisme de Mormon, si vous voulez, c'est plus facile.
Vous pouvez juste
manarchothéisme.
Manarcho.
Oui, comme un monarque.
Monarque.
Monarque, ok. C'est la prononciation qui fait la différence. C'est l'idée qu'il y a une multitude de dieux, mais qu'il y en a un qui est prééminent. Ça, c'est la différence. En fait, pour les mormons, il y a une infinité de dieux éternels. Parce que tous les êtres dans l'univers sont éternels. Il n'y a pas un individu en particulier qui est la source de l'amour. Notre connaissance de l'amour vient donc du code moral. Mais d'où vient ce code moral? Pour les mormons, chaque dieu reçoit ce code de dieu supérieur, qui lui-même l'a reçu d'un dieu plus supérieur, et ainsi de suite. Pour les mormons, le code moral n'a pas d'auteur. Le code moral n'a pas de vraie source. Mais ça, c'est une contradiction. Un livre éternel qui gouverne les dieux, mais qui n'a pas d'auteur. Un code de l'amour qui n'est basé sur rien. Dans le polythéisme des mormons, l'amour est perdu dans l'hyperspace. L'hyperspace?
L'hyperespace.
Ok. L'idée de l'amour est très importante pour les mormons, mais s'il n'y a pas de source ni d'explication, toutes ces incohérences affaiblissent beaucoup sa valeur. Je vous propose qu'on goûte à notre plat. Que disent les grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam? Excusez-moi. Imaginez un jeune garçon qui est en train de jouer avec un ballon dans le jardin, quand soudainement, il est lancé par la fenêtre de sa maison. Catastrophe. Catastrophe. De la vaisselle est cassée, des vases sont renversés. C'est un désastre. Sa mère est en colère et elle lui dit, assis-toi. Assis-toi et attends ton papa. Alors, il attend le retour de son père. Le peur au ventre. Il répète dans sa tête toutes les excuses qu'il va essayer de donner. Son père rentre alors de travail. La porte s'ouvre. La peur augmente. Mais le papa entre dans le salon avec un balai. Il range le désordre. Il dit à son fils, « Moi aussi, j'ai été un enfant. » Quel pardon, quel amour! Ça, c'est l'image qu'on a de Dieu dans les religions monothéistes. Un Dieu qui a créé le monde, qui aime sa création. La Bible et le Coran, tous les deux, parlent de l'amour de Dieu. La Bible déclare que Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Le Coran affirme que si vous aimez Allah, Allah va vous aimer et pardonner vos péchés. Le Coran, chapitre 3, verset 31. Celui qui aime est un des 99 noms de Dieu pour les musulmans. On trouve donc des similarités entre ces deux religions. Mais pour trouver la vraie source de l'amour, il nous faut les examiner avec un peu plus d'attention. Souvenez-vous que nous recherchons la meilleure explication. Quelle religion, quelle philosophie explique l'amour de la manière la plus cohérente? Alors, il y a beaucoup de différences entre le christianisme et l'islam, mais je voudrais me concentrer sur la différence entre la nature de la Trinité, le Dieu chrétien, et Allah, le Dieu de l'islam. On a tendance à penser que les deux sont pareils et que la seule différence est linguistique. Linguistique. Mais ça, c'est loin de la vérité. La Trinité est un Dieu qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Par contre, Allah est un Dieu qui existe d'une manière monistique. Cela veut dire qu'il existe dans l'unité, sans possibilité de pluralité. Quand nous regardons la nature de Dieu, nous voyons aussi une différence entre les deux. Dans le Coran, Allah est toujours nommé par ses actions. Ça, c'est très important. Allah est toujours nommé par ses actions. Il est amour parce qu'il aime. Il est bon parce qu'il manifeste la bienveillance. Il est tyran parce qu'il détruit. La nature ou l'essence d'Allah est vraiment liée à sa volonté. Il fait comme il veut, quand il veut, et sa morale n'est pas limitée par sa nature. C'est lui qui définit le bien et le mal. C'est lui qui définit l'amour. L'amour est dépendant des caprices d'Allah. Pour les chrétiens, par contre, Dieu a une nature très compréhensible révélée dans la Bible. Comme je l'ai dit, Allah est amour parce qu'il aime. Mais pour les chrétiens, Dieu aime parce qu'il est amour. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Allah est amour parce qu'il aime. Dieu aime parce qu'il est amour. Ses actions découlent de sa nature. Son amour n'est pas dépendant de quelque chose en dehors de lui. Son amour n'est pas dépendant de nous. Selon les Écritures, la Bible, les trois personnes de la Trinité s'aiment les unes les autres parfaitement et éternellement. C'est pourquoi Dieu peut aimer l'humanité. Pour Dieu, l'amour n'est jamais une émotion passagère, une crise capricieuse, ou le résultat de sa volonté seulement. Comme dans le verset que je viens de citer, Dieu est amour. L'amour est caractéristique de la Trinité. Un des versets les plus cités de la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, ce n'est pas que Dieu a aimé quelque chose aussi grand que le monde, mais c'est plutôt qu'il a aimé quelque chose d'aussi horrible que le monde. Un monde peuplé de gens remplis de haine, de rébellion, d'amertume, de meurtre et de mensonge. Le Dieu du christianisme nous aime parce qu'il est comme ça. C'est sa nature. Et notre amour, notre capacité à aimer les autres, est basée sur l'amour que Dieu a pour nous. J'affirme que cette image de l'amour que nous trouvons dans le christianisme, est la plus cohérente. Bref, est-ce que ça répond à la question de l'origine de l'amour? J'espère. 30 minutes ne suffit pas pour éliminer toutes les possibilités, ni pour répondre à toutes les objections. Mais je voudrais mentionner brièvement quelques raisons pour lesquelles je crois que la meilleure explication de l'amour se trouve de loin dans le christianisme. Et je voudrais mentionner quelques objections possibles aussi. Alors, on va examiner un peu la nature humaine. L'objection qui découle de l'observation de notre condition, notre nature humaine, est la suivante. Si Dieu est la source de l'amour, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'amour dans le monde? Chaque fois qu'on allume la télé, chaque fois qu'on lit le journal, chaque fois qu'on regarde le monde autour de nous, on voit la haine. Il faut être fou pour penser que Dieu est la source de l'amour. Voilà le raisonnement de ces chrétiens fous. Si Dieu nous aime, nous nous aimerons les uns les autres. Dieu nous aime, donc, nous nous détestons les uns les autres. Quoi? C'est pas très logique, n'est-ce pas? Mais c'est un constat. L'amour existe dans le monde, mais il ne domine pas le monde. L'amour existe dans le monde, mais il ne domine pas le monde. Comment le chrétien explique-t-il ce problème? La Bible dit que nous vivons dans une situation un peu délicate. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire avec la capacité de penser, de raisonner, d'imaginer, de comprendre l'univers, de découvrir, de prendre des décisions morales, etc. Mais à cause de notre liberté, nous avions aussi la capacité de nous rebeller contre Dieu. Selon la Bible, Dieu a soumis l'homme à un genre de probation morale, on peut dire. Il a mis en place cette probation pour deux raisons, à mon avis. D'abord, nos premiers parents pouvaient devenir parfaits simplement en faisant les bons choix. Ensuite, après qu'ils aient passé cette épreuve, Adam et Ève auraient été confirmés dans leur amour pour Dieu. Le choix était simple, persévérer dans la sainteté ou désobéir à Dieu. La Bible dit qu'à cause de cette liberté, nous avons décidé de nous rebeller contre Dieu et maintenant, toute l'humanité vit dans le conflit. C'est la doctrine de la création et la chute. Ce premier péché a mené au péché universel. Toute l'humanité est maudite. C'est notre condition. Nous sommes dans une situation grave. Le paradoxe de l'homme est évident. Il y a une lutte entre l'amour et la haine dans notre cœur. Le philosophe et mathématicien français Blaise Pascal a dit « Quelle chimère est-ce donc l'homme? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel sujet de contradiction? Quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile, ver de terre, dépositaire de vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. J'aime beaucoup cette citation, mais ça c'est le paradoxe de la condition humaine, n'est-ce pas? Nous nous sommes enlisés dans les effets de la chute. C'est encore Pascal qui a dit, « Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme dépasse infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. » Est-ce que vous vous souvenez de la question qu'on est en train de poser? Si Dieu est la source de l'amour, pourquoi ne trouvons-nous pas plus d'amour dans le monde? La réponse se trouve dans l'Écriture. L'humanité est en lutte contre elle-même et contre Dieu. En même temps, c'est l'amour de Dieu qui soutient l'univers. Les chrétiens mettent leur espérance en Dieu, qui leur a promis de vaincre et d'éliminer un jour la haine et de réparer les dommages que nous avons créés. En réfléchissant à la question de la condition humaine et à ses effets sur l'amour, je pense à une autre objection. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde dépourvu de toute possibilité de haine et de mal? Est-ce que Dieu n'a pas la puissance d'éliminer la haine qui existe à cause de notre rébellion et de remplacer avec l'amour? Est-ce qu'il a la puissance, mais il n'utilise pas parce qu'il est méchant? C'est sûr que le Dieu d'amour possède la capacité de restaurer le monde en un instant, mais il ne le fait pas. Est-ce que le christianisme est vraiment cohérent? C'est le problème du mal. J'ai lu récemment un article dans un journal qui parlait d'une jeune mère qui a jeté sa fille de 3 mois par la fenêtre du 4e étage. C'est horrible. J'ai entendu une info qui parlait d'un homme qui a enlevé et violé une fille de 6 ans alors qu'il jouait devant sa maison. C'est passé près d'ici, près de Lyon, il y a quelques mois. Il y a maintenant une grande violence au Soudan. Les soldats du Nord tirent sur des familles du Sud. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? La haine et la corruption sont partout. Comment répondre à ce constat? Il y a quelques réponses proposées par le chrétien face à ces questions. Une des réponses typiques, c'est l'appel au mystère. Dieu a ses raisons qu'on ne peut pas comprendre. Il voit des choses qu'on ne peut pas voir. Imaginez que vous êtes debout devant un grand tableau, mais vous êtes un peu trop près, si près que votre nez touche la toile. Qu'est-ce que vous voyez? Une masse confuse? Une tache floue? Un mélange de couleurs et de lumière? Mais reculez un peu et qu'est-ce que vous allez voir? L'image apparaît. Vous commencez à voir quelque chose de cohérent. De la même façon, Dieu voit le tableau entier. Il n'est pas limité comme nous. Peut-être que notre compréhension fragmentée ne suffit pas pour faire apparaître le grand dessein de l'univers. Ça, c'est une des réponses. Mais le chrétien ajoute d'autres arguments aussi. Il dit que peut-être que Dieu permet des actes haineux et mauvais pour éviter et empêcher 10 autres actes plus horribles. Un mal en empêche 2 ou 3 autres. Mais est-ce que ça offre une vraie réponse à la question? Où est l'amour de Dieu? Je vous propose une autre réponse. Je vous propose l'idée que s'il y a un Dieu, cela veut dire que nous vivons dans le meilleur monde possible. Je m'explique. La Bible dit que Dieu a fait un monde bon. Il a dit que ce monde était bon. On dit ça en Genèse. Nous vivons dans un monde bon malgré la chute de l'homme et malgré notre rébellion contre Dieu. La difficulté pour nous, c'est que nous voyons le monde aujourd'hui ou le monde hier. Mais nous ne comprenons pas que quand Dieu dit que le monde est bon, il parle de toute l'histoire, y compris l'avenir. Nous vivons dans le meilleur monde possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans sa connaissance infinie, Dieu peut imaginer une infinité de réalités différentes. C'est sûr qu'un être tout-puissant et omniscient peut imaginer un monde où vous n'existez pas, ou un monde où je n'existe pas. Il peut imaginer un monde où tout ce qui existe est vert ou rouge, ou un monde où les ours volent, ou les poissons marchent sur terre. Il peut imaginer n'importe quoi. C'est ça dont je parle quand j'emploie l'idée du monde possible. Si Dieu est vraiment Dieu, il peut imaginer une infinité de possibilités différentes. Et il peut sûrement imaginer un monde sans haine et sans mal. Mais de tous les mondes qu'il aurait pu imaginer, il a fait ce monde. Ce monde avec tous ses problèmes, toute sa corruption, toute sa souffrance. Pourquoi? La Bible nous donne deux raisons. D'abord, elle dit que Dieu nous a donné la capacité de faire des choix. Le choix de se rebeller contre Dieu, comme j'ai déjà mentionné. De détester les autres, par exemple. De tuer les autres. De voler, de violer, de détruire. Nous avons le choix d'aimer les autres, d'agir avec miséricorde, d'aider notre prochain et de chercher la paix. Nous ne sommes pas des robots. Les chrétiens croient que Dieu a fait un monde où les hommes sont dotés d'un bien extraordinaire et peut-être un peu embarrassant, qui s'appelle la liberté. Mais ensuite, la Bible nous parle d'un autre bien extraordinaire qui est complémentaire de notre liberté. C'est le bien de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ qui nous sauve de nos choix horribles. La Bible dit que par sa mort sur la croix, Christ a subi la mort que nous méritions du fait de nos choix détestables. Je vais expliquer cette idée un peu plus dans quelques instants, mais je voudrais insister sur l'idée que Dieu a fait le meilleur monde possible. Dans un monde dépourvu de mal, nous n'aurions pas de liberté de choix, ni de capacité d'avoir un amour véritable et sincère pour Dieu. De même, un monde où il n'y a pas la croix de Jésus-Christ se désagrégerait. Merci. Sous l'effet du mal que nous faisons. J'espère que ça c'était clair, mais le problème du mal est un vrai problème, mais pas pour le chrétien. S'il n'y a pas de Dieu, on n'a que la matière. Et si on n'a que la matière de la matière, on a un univers gouverné par la nature. Mais la nature se fiche de ce qui nous fait souffrir. Le vol, le viol, le meurtre, la maladie sont des choses naturelles, n'est-ce pas? Pourquoi alors est-ce que nous sommes mal à l'aise et troublés par ces choses? Nous sommes troublés par ces choses parce que nous savons que quelque chose n'est pas juste. Quelque chose n'est pas juste. Nous avons un sens de la justice. L'amour et la haine sont réels et compréhensibles pour nous. Le fait que nous ayons ce sens de la justice prouve qu'il y a un Dieu qui nous l'a donné. Il y a beaucoup plus, on peut dire, sur le problème du mal. On n'a pas le temps aujourd'hui. Peut-être on peut discuter ça un peu plus un jour. Mais nous avons déterminé que le véritable amour, c'est l'amour qui se caractérise par la bienveillance, la miséricorde, l'altruisme, l'engagement. C'est quelque chose qui se préoccupe des besoins d'autrui. J'ose vous suggérer que le Dieu du christianisme est la source de cet amour. J'ose vous suggérer qu'il y a un Dieu qui peut réparer nos cœurs brisés. Il y a trop de gens dans ce monde qui ne connaissent pas le véritable amour. Ils cherchent jour après jour à réparer les dommages par leurs propres efforts. Mais c'est insuffisant. Qui peut réparer la haine que nous avons nous-mêmes créée? Je termine par une histoire. Imaginez un homme riche et puissant qui n'a pas d'enfant, mais qui aimerait beaucoup d'avoir un garçon, avec qui partager sa fortune et qui pourrait hériter de toutes ses richesses un jour. Il décide donc un jour d'aller adopter un garçon dans un orphelinat. Il fait préparer son magnifique kéros et il part. Il passe par beaucoup d'orphelinats jusqu'à ce qu'il trouve le pire imaginable. Le bâtiment est moche, il frappe à la porte et celle-ci se détache de ses charnières. Il entre et c'est une puanteur insupportable. L'intérieur est sombre et humide. Il voit des enfants partout, sales, affamés, sans espoir. Il parle au responsable et lui explique la raison pour laquelle il est là. Mais le responsable éclate de rire, marmonne quelques gros mots et disparaît dans une chambre au bout du couloir. Quelques minutes plus tard, il en ressort avec un garçon qui crie, qui jure, qui gesticule et qui se débat furieusement. Un garçon qui ressemble plus à un animal qu'à un être humain. Un garçon rempli de haine. Mais malgré ça, l'homme l'adopte et l'amène habiter avec lui dans sa maison. Cette histoire me fait penser à une autre histoire. L'histoire d'un Dieu qui est devenu homme, qui a habité parmi nous, et qui est mort sur une croix romaine afin de payer la punition que nous méritons à cause de notre rébellion et à cause de notre haine. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous adopte par le moyen de la foi et de la repentance. La Bible ne dit pas que Dieu nous aime parce que nous l'aimons. Elle dit plutôt que Dieu nous aime, nous a aimés, alors même que nous le détestions. Je vous suggère donc que l'amour existe parce que Dieu existe, parce que la Trinité existe et parce qu'il nous donne la capacité d'aimer par sa grâce. Le Dieu du christianisme est le seul Dieu qui peut expliquer l'existence de l'amour dans l'univers. C'est la seule possibilité. Et en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité d'aimer notre Dieu et d'aimer les uns les autres. Ça, c'est l'apologétique ultime, l'apologétique de l'amour. Alors, on va finir là, mais si vous avez des questions, des choses à partager, des idées, on peut discuter un peu plus sur cette idée.